9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, au générique de ces rediffusions du dimanche, Michel Legrand, Jane Birkin, Robert Badinter, trois récits de vie, trois confessions. Le premier est une légende, sans doute le musicien français le plus connu dans le monde, presque 70 ans de carrière pour la chanson, le jazz, le cinéma, les films de Jacques Demy. Michel Legrand publie des souvenirs qu'on va explorer avec lui en musique. La deuxième, ce livre accru. Pour la première fois, Jane Birkin raconte sans tabou la passion irradiante et dévorante qui la lie à Serge Gainsbourg. Tout était dans son journal intime où elle parle à un singe en pluche appelé Monkey. Enfin, le troisième n'avait jamais écrit sur sa famille venue de Bessarabie au bord de la mer Noire. À 90 ans, Robert Badinter consacre un livre bouleversant à sa grand-mère maternelle, Idis, et fait pour la première fois le récit de ses années d'occupation à Paris et à Lyon.
Europe 1.
Michel Legrand n'est pas un compositeur, disait Jacques Demy, c'est une fontaine à musique. Bonjour Michel Legrand.
Oui, bonjour.
Une fontaine pour la profusion, pour le jet continu, parce que ça fait 60 ans que la fontaine n'a jamais cessé de couler. L'envie, l'inspiration ne vous ont jamais fait défaut, Michel
non.
Legrand.
Non, jamais. Vous savez, quand l'amour pour quelque chose ou quelqu'un est si fort que c'est pour l'éternité.
Ouais. Alors, ce livre de souvenirs avec Stéphane Lerouge, j'ai le regret de vous dire oui, chez Fayard, c'est donc un récit gorgé de musique et de rencontres. On parlait d'inspiration il y a un instant, que quand un sujet ou des images vous inspirent, vous racontez que parfois il ne vous faut que quelques minutes, comme ce jour où on vous montre un film en salle de montage, aussitôt il vous vient cette mélodie. Un été 42, immense succès, vraiment quelques minutes pour trouver la mélodie,
oui,
Michel Legrand.
C'est drôle, parce que quand on voit un film si émouvant que celui-là et qu'on doit délivrer la musique dans la même soirée, ou presque, alors l'adrénaline est telle que devant une telle beauté cinématique, il faut trouver quelque chose de formidable. Et la tension est telle qu'on on trouve.
Parfois, vous le racontez dans le livre, c'est plus compliqué. Par exemple, pour les parapluies de Cherbourg avec Jacques Demy, vous imaginez d'abord des thèmes musicaux un peu trop sophistiqués pour le parler courant des dialogues du film. Il faut tendre vers quelque chose de plus simple. Et le déclic, dites-vous, vient avec cette chanson.
Nous sommes dans une situation difficile. Geneviève est grande et m'aide de son mieux. Elle n'est pas en cause, mais j'ai de lourdes charges et j'ai pensé. Enfin, je dois faire face à une échéance dont les conséquences risquent fort de nous compromettre. Et je viens vers vous comme on vient au Messie.
Madame. Extra des parapluies de Cherbourg, joyau du cinéma français. Nous sommes dans une situation difficile. C'est ce dialogue-là qui vous donne le déclic, Michel Legrand.
Oui, parce que vous avez sans doute remarqué que ce passage-là, il n'est ni jazz, ni classique.
Oui.
J'ai mis en musique un scénario écrit pour être tourné, parlé. Il n'y a pas d'alexandrin. Ils sont pas liés les uns aux autres. Enfin, je veux dire, et tout à coup, car les producteurs qui ont tous, sans exception, refusé de mettre un centime dans cette aventure, nous ont tous dit, vous ne pensez tout de même pas que le public va rester une heure et demie dans une salle obscure pour entendre des gens chanter des banalités.
C'est
ils ont raison.
C'est ce qu'on découvre dans votre livre. Il vous a fallu, à vous et à Jacques Demy, une opiniâtreté incroyable pendant des mois. Ce film, personne n'en veut et personne n'y croit.
Non.
Il a fallu le coup de pouce de Pierre Lazareff.
Ma propre maman, qui était éditeur de musique, elle veut pas l'éditer. Elle dit, ah non, cette fois, c'est un flop garanti. Non, donne-le à qui tu veux, j'en veux pas.
L'idée du film entièrement chanté du début à la fin, elle vient quand même pas mal de vous.
Oui.
Demy hésite un peu.
Oui, ben oui, c'est-à-dire que moi, musicien, je peux imaginer un peu en avance la musique. Les autres, non.
Michel Legrand, vous êtes un surdoué de la musique, vous savez tout faire dans tous les
ça
styles.
Ça veut dire quoi? J'aime pas trop le mot de surdoué.
Ah bah écoutez, quand on vous... parce que très tôt, vous savez composer, écrire, arranger sous la houlette de Nadia Boulanger. Vous avez appris très vite et très tôt et vous avez percé très jeune.
Ça m'était facile, j'adorais ça.
Oui, mais encore faut-il le faire. Vous avez eu des idées de génie qui vont déboucher sur des chefs-d'œuvre et parfois vous manquez de clairvoyance, vous le racontez avec beaucoup d'honnêteté. Parmi les coups de maître, ces chansons que vous composez au début des années 60 avec un jeune parolier plein de talent, mais qui ne trouve personne pour les chanter, et vous lui dites « mais vas-y toi, tu peux chanter », et ça donne ceci.
Ce qu'il faut dire de fadaise, pour voir enfin du fond de son lit un soutien-gorge sur une chaise, une paire de bas sur un tapis. Nous les coureurs impénitents, nous les dons juju, nous les dons Juan.
Claude Nougaro, les dons Juan, évidemment. Ce qui est drôle, c'est que le patron de Philips, Jacques Canetti, immense monsieur de la chanson française, il croit pas beaucoup à ce Nougaro chanteur.
Il croit pas du tout même.
Quelques années plus tard, on vous sollicite pour Serge Reggiani qui va sortir un disque et vous répondez « mais non, Reggiani c'est un acteur, il n'a pas une voix de chanteur
ouais, ». C'est vrai.
Donc voilà, donc vous pouvez vous tromper aussi. Parfois c'est avec vos propres compositions que vous manquez de flair. Quand vous composez les Demoiselles de Rochefort, il y a un thème qui vous satisfait pas, trop plat. Bon, vous le gardez quand même, c'est celui-ci.
Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore.
Thème devenu mondialement connu, la chanson de Maxence,
c'est drôle,
des Demoiselles.
Moi, j'aimais pas trop la mélodie. Je dis, oh, c'est un peu plat. C'est un peu le doigt dans le nez, non ? J'aime pas trop ça. Et ce qui m'a fait changer d'avis, ce qui m'a tourné vers ce thème, ce sont les musiciens de jazz.
Évidemment.
C'est très drôle d'ailleurs.
Et l'une de vos grandes fiertés, cette reprise par l'immense pianiste de jazz, Bill Evans. Oh. Evans, You Must Believe in Spring, son dernier enregistrement. Le disque paraît après sa mort.
C'est
bouleversant.
C'est terrible, il m'avait... Alors, quand il a enregistré ça, quand j'ai su qu'il avait enregistré, moi qui l'admirais déjà depuis toujours, on se rencontre, on s'embrasse, on parle, on aime la même personne, on aime la même musique. J'avais une passion pour lui, il m'aimait bien. Et il me dit, Michel, je voudrais que tu m'écrives un concerto. Alors, moi, de l'instant qu'on me demande des choses impossibles, j'ai dit oui tout de suite. J'ai le déplaisir de vous dire oui.
C'est le titre de vos souvenirs de ce livre.
Et alors, bon, il me dit, écris pas trop dur, tu vois, parce que il avait les mains tout à fait boursouflées. Et puis, il est mort avant. Le mettre au travail. Et alors j'ai regretté. Je me suis tapé la tête contre les murs. Et puis ça m'a fait une telle peine que c'est la seule chose, moi, sur Terre, qui me hante, que je n'accepte pas, que je n'accepterai jamais, qui fait que la vie est un martyr. Ce sont les gens qu'on aime qui meurent. On ne peut rien faire. On est là comme des statues de sel devant l'irréparable. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'empêche de vivre.
On poursuit ce vagabondage au travers des mille vies de Michel Legrand dans un instant.
Jusqu'à 10h, retrouvez Patrick Cohen dans C'est arrivé demain sur Europe 1.
Avec nous, Michel Legrand, arrangeur, pianiste, chef d'orchestre, chanteur, jazzman, compositeur de chansons, bien sûr, et de musique de film. Un homme aux mille vies musicales et aux mille rencontres, parce que le casting de ce livre, Michel Legrand, j'ai le regret de vous dire oui avec Stéphane Lerouge chez Fayard et donc de votre vie. Ce casting est stupéfiant. On y trouve Miles Davis, Sarah Vaughan, Barbara Streisand, Sean Connery, Jean-Luc Godard, Stan Getz, Nadia Boulanger, avec qui vous passez 5 ans d'apprentissage musical et de discipline de fer. C'est votre mère en musique, dites-vous, Nadia Boulanger.
Tout à fait.
Edith Piaf et Tino Rossi, vos premiers arrangements. Darry Cole, votre première tournée. Maurice Chevalier, que vous accompagnez à l'Alhambra. Boris Vian, Henri Salvador, avec qui vous composez le premier disque de rock français.
Apportez-moi sans hésiter rock and roll ma. Avec du pain beurré rock and roll ma. Et du bifteck haché rock and roll ma. Avec un œuf à cheval rock and roll ma. Je me sens cannibale.
Alors sur le coup vous trouvez ça absolument ridicule, vous dites c'est vraiment de la petite oui. musiquette sans...
On a passé une partie de l'après-midi avec Boris Vian chez moi pour écrire 4 chansons. Ouais. C'est-à-dire qu'on les a écrits juste le temps de jeter quelque chose.
Oui.
Quelques notes sur un papier, et lui et quelques paroles.
Oui.
On riait. On se moquait de nous-mêmes. Rock'n'roll mops.
Oui, tout ça parce que vous aviez rapporté le
disque des fameux premiers rock'n'roll.
Oui, Bill Haley.
Bill Haley, c'est Bill ça. Haley. Alors, Canetti qui était avec moi à New York, me dit « Oh tiens, il faudrait qu'on en fasse un à Paris, je dis, écoutez, non, ça ne marchera pas, c'est lamentable.
Oui. » Oui,
mais ça... Oh, alors en rentrant, on fait... Alors pour se marrer, comme une blague.
Ben oui, mais maintenant, vous êtes dans l'histoire de la musique comme étant le premier compositeur de rock français.
C'est que le public a pris ça au premier degré.
Bien sûr. Alors, comme vous êtes un pionnier musical, Michel Legrand, on va parcourir quelques-unes de vos premières fois. Vous êtes arrivé à monter une séance d'enregistrement, plusieurs séances d'enregistrement avec Miles Davis, qui n'était pas facile à convaincre, qui était un peu méfiant à l'égard de ce Frenchie qui venait diriger des séances à New York.
Oui.
Mais vous avez réussi à faire ce disque. C'est une sorte de miracle quand on le regarde, quand on l'écoute aujourd'hui. Le grand jazz en 1958. Oh. On va en écouter un extrait. In Tunisia, évidemment, le titre de Gillespie, avec au casting, il faut bien, on se pince en regardant la pochette, Miles Davis, John Coltrane, Phil Woods, Paul Chambers, Bill Evans, au piano encore, Herbie Mann, la flûte, extraordinaire enregistrement avec des gens qui n'ont pour certains plus jamais joué ensemble, mais que vous avez réussi à réunir, Michel Legrand.
Surtout auprès de Miles. J'ai demandé à Miles, j'ai dit, Miles, tu crois que voilà, avec toi, il y aura un tel, un tel, un tel. Alors, il fronce les sourcils, il lit attentivement, lentement, il me dit « Ça va, tu peux les prendre.
» Autre premier film, et unique film d'ailleurs, comme metteur en scène, 5 jours en juin,
ouais.
Et l'immense Ray Charles,
ouais.
Qui pour ce film, Michel Legrand, ouais. Vous fait le cadeau d'une chanson.
C'est vrai.
One day she loves you. One day she'd leave you. Summer's gone, winter's here, and love makes the changes you do. One day the sun.
Vous racontez qu'en un rien de temps, Ray Charles s'est approprié la chanson comme si elle faisait partie depuis toujours de son répertoire.
C'est très extraordinaire. On lui avait joué la musique 2 ou 3 fois. Donc il la connaissait par cœur et alors il suivait en braille devant le micro le texte de mes amis les Bergman. Et il adore la chanson et on a fait un disque fou, un disque. Je crois que c'est la première fois qu'il a chanté de façon aussi extraordinaire. Me dit Quincy Jones qui, lui, a tout vu, tout connu. Et alors... La suite de quoi ? C'est fou, c'est-à-dire que la musique fabrique des amitiés à d'une telle solidité que c'est encore plus solide que le pont de Gênes. Oui.
Et vous avez chanté, vous aussi, Michel Legrand,
oui.
Au milieu des années 60, oui. Vous sortez un premier disque oui. de chansons avec votre voix. On trouve notamment ceci.
Quand ça balance, on est deux, le jazz et moi, je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, le jazz et moi, ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone, les trombones, le jazz et moi, quand on s'est donné le là, il ne manque plus que les trompettes et puis voilà, ça me cogne dans les doigts.
Quand ça balance, Michel Legrand, on a évoqué beaucoup de souvenirs, enfin quelques-uns en tout cas de vos souvenirs musicaux, mais votre actualité, elle s'écrit aussi avec deux mains dans la phrase, puisque vous avez encore des projets. Podane qui va se jouer au théâtre Marigny dans une adaptation. Et puis, on a l'impression que vous avez envie là aujourd'hui de refermer des vieux dossiers ouverts il y a quelques années. La musique d'un film posthume d'Orson Welles. Racontez-nous. En fait, c'était une indication. Orson Welles, en composant, en imaginant son film, il avait dit, il avait écrit quelque part, ouais. cette musique doit être composée par ouais. Michel Legrand.
Et avant de mourir, il a laissé des ordres aux gens qui allaient travailler sur son film de me demander la musique. Voilà. Ceci est arrivé il y a quelques mois, après 25 ans, dans un tiroir.
C'est formidable.
Ouais.
Et donc, on va pouvoir découvrir le résultat dans quelques semaines.
Moi, je crois que le film va sortir bientôt.
Le film va sortir bientôt. Et on peut dévorer ses souvenirs, comme je l'ai fait, Michel Legrand, avec Stéphane Le Rouge. J'ai le regret de vous dire oui, c'est une somme chez Fayard. Merci d'être venu nous voir.
Oh, avec joie, vraiment, c'est merci à vous.
Merci, Michel Legrand.
Merci, au revoir.
Dans un instant, c'est Jane Birkin qui sera au micro de Patrick Cohen pour son livre Monkey Diaries. C'est arrivé demain, c'est avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Jane Birkin.
Bonjour.
Femme, enfant, définitivement, dans les yeux de Serge Gainsbourg et grâce à cette photo sur la pochette de Melody Nelson. Femme, enfant.
Oui. Enfin, c'était l'histoire de Melody Nelson qui était 14 automnes et 15 étés. Donc, c'était pas exactement ça. J'étais enceinte de Charlotte, en fait. D'où les jeans un peu ouverts. 4 mois enceinte, je pense. Et le singe était très, très utile pour camoufler le reste. Et comme je dormais avec lui depuis toujours, donc, oui.
Melody Nelson,
ça
évidemment.
Ça a inspiré Melody. Oui.
Ça n'est pas vous, mais c'est aussi vous parce que vous êtes sur la pochette et que vous apparaissez dans les toutes premières mesures de ce chef-d'œuvre qu'est Melody Nelson.
Tu t'appelles comment ?
Melody.
Melody comment ?
Melody Nelson.
Tu es anglaise ?
Anglaise, oui monsieur, ça c'est dans la
mais
prise complète.
Ah
c'est la prise complète, c'est pas ce qui est paru sur le disque. Mais en tout cas, c'est à ce doudou monkey que vous parlez dans ces journaux intimes que vous écrivez depuis l'âge de 11 ans, Jane Birkin. Monkey Diaries, et donc que vous publiez chez Fayard. Ça raconte votre enfance anglaise, vous vous sentez différente, votre mariage malheureux à 18 ans avec le grand compositeur John Berry, et puis bien sûr cet amour démesuré, excentrique, immense, tendre, violent, désespéré avec Serge Gainsbourg. Qu'est-ce qui vous a conduit à dévoiler tout cela ? Est-ce que c'est la volonté de rétablir la vérité, votre vérité ?
Ça a l'air tellement sérieux de dire, de rétablir une vérité, parce que j'ai donné tellement d'interviews et tellement d'anecdotes déjà. Des gens ont écrit des livres avec ou sans mon accord. Il me semblait que j'avais plus rien à donner et que c'était peut-être le plus juste étaient les journaux, parce que même moi, j'avais oublié. Et de retrouver les histoires, j'espère qu'il y en a des rigolos autant que des tristes.
Des histoires rigolotes, tristes, et des histoires incroyables. Vous vous êtes vraiment jeté dans la Seine un jour, devant Serge Gainsbourg, ou c'est un rêve, un cauchemar, ce que vous racontez, Jane Birkin?
Non, c'est vrai. Parce que je l'avais envoyé une tarte à la crème chez Castel, excitée par les personnes qui se trouvaient au rez-de-chaussée. Il y avait plein de gens qui cherchaient des noix à sèche et ils étaient ravis quand ils ont vu le tarte à la crème. Et en 2 secondes, ma main était en dessous. Et avant que je pouvais dire « ouf », je l'avais envoyé le projectile contre le visage de Serge et je n'ai pas raté. C'était en plein figure. Et il n'a pas fait des gestes stupides de... Je ne sais pas comment on voit dans les dessins animés. Non, pas du tout. Il est allé dignement vers la porte. Et là, moi... foireux, je suivais dans ces traces de tarte qui tombaient de gauche à droite jusque le rue de Saint-Père. Et là, j'ai vu qu'il allait prendre le rue de Verneuil. Il fallait faire un truc dramatique pour me rattraper de cette affaire. Je me rendais compte que ça n'était pas bien.
Et vous avez sauté dans le fleuve, vraiment?
Serge a dit que j'attendais bien qu'il descendait les quelques marches pour être sûr que je n'allais pas me jeter pour rien. Donc je reconnais le caractère mesquine de le faire pour lui.
Pour le faire devant lui et pour qu'il vous sauve, pour qu'il aille vous secourir.
Pour qu'il me secoure et puis surtout qu'il me pardonne.
Vous avez vraiment, Jane Birkin, fait l'expérience d'un bordel à Pigalle?
Ben oui. Mais j'ai changé, j'ai écrit comme histoire courte, donc je pense qu'il y a des exagérations. Je pense que le porte n'a pas tombé complètement sur Lucien, comme j'avais marqué. Mais je trouvais ça rigolo. Et à leur lecture, je trouvais ça marrant comme tout.
Ah oui, c'est effectivement pittoresque. Oui.
Ben oui.
Alors vous avez 2 expériences. Une première fois, vous êtes chassé par les prostituées. Et puis vous revenez dans un hôtel vraiment minable.
Il fallait que ça soit vraiment
pourri.
Minable.
Et en vous lisant, je me suis dit que ce claque ou ce cloaque, c'était l'image inversée de ceci.
Au 56, oui. 7, 8, peu importe. De la rue X, si vous frappez à la porte.
L'hôtel particulier de Melody Nelson, oui. Évidemment, c'est le bordel de luxe.
Ça c'était l'hôtel rue de Beaux-Arts. Inspiré par. Et oui, là, tout est permis.
L'hôtel des Beaux-Arts où vous avez séjourné au tout début, oui. Dans votre relation avec Serge Gainsbourg. Alors, dans la série Vrai ou pas vrai, Jane Birkin, Claude François, c'était vraiment un type horrible?
Il n'était pas horrible. Ce qui était étonnant, c'était son projet. Qui était d'être complètement nu, d'avoir les jambes écartées, et que ça, c'était pour sa magazine qui s'appelait, je crois, Absolu.
Absolu.
Non, j'étais absolument. Alors pour le
vous
coup,
êtes retrouvé dans une séance
choqué,
photo. Oui.
De sa part, lui, il disait, mais il n'y a rien de plus beau, etc. Mais c'était pas mon avis. Et je n'avais aucune inclination de faire ça du tout. C'était pourtant avec le plus grand photographe de l'époque.
Bourdin.
Oui, formidable, avec lequel j'avais fait plein d'autres photos pour la mode, etc. Il était chic quand même parce qu'il a tout de même fait les Carpentiers, alors qu'on pensait qu'il allait désister parce que c'était un peu donnant-donnant, comme
oui.
Il disait.
Oui. Jane Birkin, vos souvenirs, votre journal intime des années Gainsbourg et des autres Monkey Diaries, qu'on va continuer de feuilleter dans un instant avec des pages étonnantes sur une journée au lit avec Brigitte Bardot.
De 9h à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec notre invitée Jane Birkin qui publie de larges extraits du journal intime que vous tenez, Jane, depuis l'âge de 11 ans, vous vous adressez à votre singe en peluche, Monkey.
Oui.
Vous nous racontiez il y a un instant comment Claude François avait tenté de vous faire poser nu, les jambes écartées pour son magazine Absolu, vous avez refusé. Mais il faut dire, Jane Birkin, qu'on vous voit nu... assez vite, dans les magazines, au ouais. Cinéma, dont le Don Juan de Vadim, qui vous met au lit avec Brigitte Bardot. Vous, vous racontez ce moment assez étonnant, parce que Brigitte Bardot avait eu une relation passionnelle avec Gainsbourg.
Oui, elle était absolument impeccable. En arrivant au studio, elle était plus jolie encore que toutes les photos que j'avais vues d'elle. Je l'avais vue entrant dans un restaurant à Saint-Tropez. J'ai vu plutôt le visage de Serge qui était face à la porte et j'ai vu qu'il était devenu blême. Donc je me suis retournée et c'était elle. Et là, pour le film, elle était nickel, elle était plus heureuse d'être au bar en train de prendre un verre plutôt que d'être devant la caméra. C'était quelqu'un de tout à fait désintéressé par sa carrière. Un rafraîchissement total et son visage, la bouche, le nez, les yeux, tout comme on avait imaginé, mais mieux encore parce que non maquillée, j'étais subjuguée. Et les jambes et les pieds et le tout. Donc, photo pour photo, c'était tout de même un de les plus jolis que j'avais fait, en fait, avec elle.
On vous voit nue aussi, Jane Birkin, dans un film que vous évoquez dans ce livre, avec raison, parce que c'est sans doute votre meilleur rôle de cette époque, c'est le Mouton enragé de Michel Deville, avec Jean-Louis Trintignant.
Oui. Tiens, je me suis dit, oh, il serait occupé, il aurait oublié tout. Alors j'ai pas attendu, hein.
Pas attendu?
Pas pour commencer.
Ça ne fait rien.
Bah si, ça m'embête. Remarquez, c'était pas terrible, un peu sec dans l'ensemble. Vous tenez absolument rester debout?
Non.
En tout cas, je suis vachement content que tu sois venu.
Extrait du Mouton enragé de Michel Deville face à Jean-Louis Trintignant. Vous écrivez très fier à la sortie du film, très fier d'avoir mon nom et ma photo sur l'affiche. Romy Schneider doit être folle de rage. Et là, on voit que vous êtes une petite ambitieuse à l'époque, Jane Birkin.
Écoute, j'avais peu de choses à mon crédit. J'étais juste contente d'avoir un poster avec Trintignant, avec moi, comme si j'avais un grand rôle. J'avais un très joli rôle, en fait, où ma mère était contente parce qu'elle imaginait que j'aurais désormais des rôles un peu à la Shirley MacLaine.
Oui.
Ce qui n'était pas le cas parce que, comme vous avez pu constater, cet accent est tout de même atroce. Donc c'est pas possible de me fourguer n'importe où. Je pense que ma voix est devenue bien peut-être à partir de la fille prodigue de Jacques Doyon.
Jacques Doyon.
Ouais.
Mais pourtant dans le film vous vous appelez Marie-Paul.
Oh oui.
Avec cet accent-là, anglais, Marie-Paul. En réalité, il est assez peu question de votre carrière artistique dans ce journal intime, Jane Birkin.
Il
n'y
avait même rien du tout. Donc, j'ai ajouté les choses où il y avait carrément des trous de 8 films qui pourtant comptaient, mais je n'ai pas écrit dessus parce que c'est un journal uniquement sur les sentiments.
Les sentiments et ce qu'il y a beaucoup dans ce journal intime, la douleur de cet amour avec Gainsbourg qui se déchire. Vous rêvez même à un moment d'une vie à trois avec Jacques Doyon. Vous quittez Serge en vous demandant s'il n'a plus rien à faire de vous.
Bah peut-être aussi, on se justifie d'être parti. Peut-être c'est en partie vrai. Hein. J'avais l'impression de ne pas compter probablement parce que il était en train d'avoir un tel énorme succès avec Aux Armes, etc. Avant, il était une personne privée juste pour moi. Enfin, j'exagère, pas juste pour moi, parce qu'il écrit pour plein d'autres personnes, mais un petit peu. Et là, tout d'un coup, tout marchait pour lui, tout était autour de lui. J'ai l'impression d'être... ma vie avec lui était uniquement dans les boîtes de nuit.
Mais vous savez...
Et puis,
mais vous savez, aujourd'hui, Jane Birkin, enfin, vous l'avez su... il y a longtemps déjà, vous savez qu'en réalité, votre départ l'a détruit, Gainsbourg.
Mais j'étais bien conscient après, et la lettre que je lui ai écrite, en espérant de rester avec lui malgré tout, en tant que ce qu'il voulait. Mais confidente, amie, c'était beaucoup parce qu'on n'était pas vraiment des amis. Mais de ne pas disparaître de sa vie, ça me semblait pas possible. De sa manière à lui, d'avoir pu suggérer d'être parrain de ma fille Lou, de réentrer dans ma vie par les disques, par Charlotte bien sûr. Et son dernier disque qu'il m'a écrit tout de même, c'était Amour des feintes. Je me rends compte de cette chance inouïe qu'il a bien voulu continuer après notre séparation. C'est un peu le souhait qu'on a toujours avec les personnes qu'on quitte ou on est quitté par... c'est que ça ne finit pas là, que tous les souvenirs ne sont pas ainsi effacés, enfin pas partagés en tout cas. Et c'était une telle misère à l'idée de ne pas avoir Serge. Et c'est vraiment Jacques et Bambou qui ont pu supporter cette après-vie avec lui.
On a commencé Jane Birkin en évoquant Monkey, ce singe en peluche qui vous accompagne depuis l'enfance. Il est où aujourd'hui, Monkey?
Monkey, j'ai donné à Serge finalement. Il avait toujours voulu. Je lui ai donné plein d'autres peluches qui étaient dans son endroit où il écrivait. Mais je savais que Monkey, il gardait ses pantalons dans son attaché case. Il ne prenait pas de voyage sans un morceau de ses vêtements, tout comme mes enfants, mes parents, frères, sœurs. Et devant le désarroi de sa mort, pour Kate, pour Charlotte, pour Lou, j'ai donné ce que j'avais de plus précieux.
Vous l'avez placé dans son cercueil.
Oui, oui.
Merci Jane Birkin. Monkey Diaries, ça paraît chez Fayard, vos journaux intimes jusqu'à 1982. Il y aura un tome 2, il y a une suite. Apparaître l'an prochain, merci à vous.
L'interview de Robert Bernanter fait partie des meilleurs moments de cette arrivée demain, choisie par Patrick Cohen. Alors on la retrouve dans quelques minutes. Comme chaque dimanche, de 9h à 10h, retrouvez cette arrivée demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec Robert Badinter qui fait revivre sa grand-mère maternelle, Idis, dans ce livre qui paraît chez Fayard. Robert Badinter, Idis est morte en avril 1942 à Paris. Elle était très malade, quelques semaines après votre départ pour Lyon avec votre frère et vos parents. Vous n'aviez jamais dans un livre raconté vos souvenirs de cette période et c'est assez saisissant. En 1940-41, vous avez 12-13 ans, vous êtes lycéen à Janson de Sailly, adolescent juif dans un Paris occupé, mais plutôt insouciant, on est stupéfait de découvrir qu'à l'automne 1941, vous vous rendez avec votre frère au Palais Berlitz, boulevard des Italiens, pour voir l'exposition « Le Juif et la France ».
Oui, c'était avant le port de l'Étoile. Ma mère nous l'avait absolument interdit. Mon père était déjà à Lyon. Mon frère et moi, nous y sommes bien sûr allés. Et je veux dire que c'était totalement absurde pour nous. À s'entendre déclarer matin à Radio Paris « Les Juifs sont les rats de l'humanité ». Vous avez 12-13 ans. Vous ne pouvez rire, ça n'a aucun sens.
Vous riez, vous éclatez de rire, enfin vous attendez la sortie.
À la sortie. Mais il y avait de quoi éclater de rire, et en même temps, être horrifié par cette vision que l'on voulait vendre aux Parisiens de ce qu'était la communauté juive en France.
Mais ce rire, celui de...
Ah bah c'est celui de la défense.
Hein. Le vôtre et celui de Claude, votre frère, ça veut dire que vous ne preniez pas cette haine au sérieux, haine qui s'affichait dans l'exposition.
Vous avez le choix contre deux solutions. Ou rire, ou pleurer. Je préfère le rire. J'ajoute que l'année 40-41, dans les lycées, et notamment bien, mais pas que le mien, parce que j'ai demandé
à Paris,
à mes contemporains sur... Oui, je parle de Paris 40-41. Hein.
Oui.
C'est immédiatement après le désastre militaire. Et jusqu'au moment juin 41, où l'armée allemande va être engagée totalement sur le front russe. Donc là, c'est la grande époque de l'armée allemande et de l'occupation. Eh bien, dans le lycée, il était difficile de s'en rendre compte. Il y avait des antisémites. Il y avait aussi des antisémites avant la guerre. Ils étaient plus nombreux et surtout, ils étaient plus vivaces pendant l'occupation. Mais ça n'était pas fondamentalement différent.
Robert Badinter, vous avez l'âge d'avoir connu cette époque, cette avant-guerre que vous racontez en partie, ces quelques années d'occupation. Dans quelques années, tous les témoins directs de cette histoire auront disparu. Il restera des historiens, des souvenirs familiaux, des livres, le vôtre. Est-ce que ce sera suffisant ?
Pour ce qu'on appelle communément la transmission de la mémoire, ne manquons pas de référence. Mais il faut être sans illusion. La mémoire, elle se cristallise autour de quelques épisodes. Elle se fige. La mémoire, c'est un album d'images. Vous savez que vous tournez. Ce n'est pas un film dans sa continuité. Alors, si on peut mesurer ce qu'a été la réalité de l'occupation si complexe, car tout le monde n'a pas vécu la même occupation. Ce que je veux marquer, et pourquoi j'ai écrit Idis, parce que c'est un destin extraordinaire. Quand vous pensez qu'en effet, comme vous l'avez dit, elle est née dans les profondeurs du Yiddishland, où régnait le plus vif antisémitisme. Elle a quitté avec sa famille, elle est venue à Paris. Là, elle a eu, pendant la période de l'entre-deux-guerres, une période heureuse. Heureuse. Elle et sa famille à force de travail. Et puis est arrivée la catastrophe et elle est morte en entendant monter par la fenêtre ouverte les chants des Allemands vainqueurs qui défilaient dans la rue. Elle ne voulait plus sortir. Elle ne pouvait pas supporter la vue de ces Allemands casqués, bottés, chantant leurs hymnes nazis. Ça lui était insupportable. Et à la fin du livre, j'ai tenu à décrire cet enterrement presque solitaire, avec quelques membres de la famille encore à Paris.
Qui n'avaient pas le droit de venir grouper. Groupe.
Non, c'était interdit. Comme était interdit aux Juifs l'utilisation à ce moment-là des wagons autres que le dernier wagon de deuxième classe dans le métro. Comme étaient interdits les squares aux enfants. Comme étaient interdits l'usage de la bicyclette. Comme il avait fallu donner les postes de radio. C'est là, dans ce quotidien-là, que se traduisait concrètement tous les jours ce que signifiait le pouvoir là, en place, et la persécution. Il y a par ça, évidemment, il y avait les déportations, la honte, l'infamie et le massacre. Et moi, pour moi, à l'âge où je suis, je pense toujours à ce crime contre l'humanité qui entachera pour toujours, à mes yeux, le régime de Vichy, qui a été de livrer les enfants des parents qu'on avait déjà arrêtés et déportés aux Allemands pour rejoindre leurs parents, disaient hypocrites les bonnes âmes dirigeant à Vichy. Et en réalité, quand ils montaient dans le wagon de déportation, deux par deux, les enfants, des petites filles de 6 ans tenant la main, 4 ans, c'était pourquoi ? Simplement une interrogation. Pour travailler ? Non. Pour retrouver leurs parents, c'est ce qu'on disait. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ces bouches inutiles si l'on pourrait être supprimé dès l'arrivée ? Et c'est ce crime-là qu'on retrouve d'ailleurs toujours à l'encontre des enfants, comme si vous voulez supprimer l'avenir. C'est ce crime-là qui marque, à mes yeux, les crimes contre l'humanité. D'abord contre les enfants.
Idis. Chez Fayard, par Robert Badinter. Merci monsieur Badinter, merci d'avoir été au micro d'Europe 1.
Merci Patrick Cohen, c'était les meilleurs moments de cette arrivée demain. Rendez-vous bien sûr samedi prochain dès 9h. Surtout, restez avec nous, dans un instant vous retrouvez Hélène Jouan avec le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, avec pour invité ce dimanche le médecin, explorateur et écrivain Jean-Louis Etienne. Et à 11h pile, vous revivrez les meilleures balades de Frédéric Taddeï et ses invités dans les rues de Paris, comme d'habitude. Alors vous le voyez, la journée est loin d'être terminée. Alors à tout de suite sur Europe 1, il est 9h55.